7. Ce fut pendant ces journées si laborieuses pour le corps et pour l'esprit que Balzac, m'arrêtant une fois sur le boulevard des Capucines, me dit avec accablement « Mon cher ami, je meurs de faim. Il est 3 heures, je sors de ma répétition et je n'ai encore rien pris. Allons manger. » « Mais je n'ai pas faim, moi, je ne sors d'aucune répétition, Dieu merci. Il s'agit bien de vous. Venez, vous me tiendrez compagnie. » Alors, rebrousse son chemin et entrons au café de Paris. Pas de café de Paris, il est trop tard pour déjeuner, trop tôt pour dîner, autre chose. Où voulez-vous donc aller? Suivez-moi. Je sais un bon endroit que j'ai découvert, un pâtissier sublime, vous verrez. Connaissez-vous les gâteaux au riz? C'est assez bête. J'allais vous le dire. Mais connaissez-vous les petits pâtés au macaroni? Mais vous ne les connaissez pas. Marchons. Est-ce bien loin? Rue Royale. Et, me prenant avec le seul bras qu'il eut de libre, il avait 3 ou 4 volumes sous l'autre bras, il m'entraîna, au pas accéléré de la faim, rue Royale, chez le fameux pâtissier qu'il avait découvert, lequel, je présume, est encore à la même place. Nous entrons. « Des petits pâtés au macaroni !» s'écrie Balzac. « Nous les prenons tous !»« Voilà, messieurs !» dit une jeune demoiselle anglaise en tirant la plaque de tôle de son four en cuivre poli. Balzac avait déposé ses volumes sur une table. Je supposais qu'il allait se jeter sur les petits pâtés avec une voracité d'ogre. « Savez-vous quel est cet ouvrage ?» me dit-il. « Non, mon cher Balzac. » Au nom de Balzac, je remarquai que la jeune demoiselle anglaise, qui nous servait, s'arrêta brusquement, oubliant de répondre aux autres consommateurs. Elle ne respirait plus. Je la vis s'épanouir comme une belle rose au soleil levant. Ce fut une fascination subite. « C'est, reprit Balzac, le dernier ouvrage de Cooper, le lac Ontario. C'est beau, c'est grand, c'est d'un immense intérêt. Il nous devait bien ce chef-d'œuvre, après les 2 ou 3 dernières rhapsodies qu'il nous a données. Vous lirez cela, je ne connais au monde que Walter Scott qui se soit élevé à cette grandeur et à cette sérénité de coloris. Si Cooper avait réussi dans la peinture des caractères au même degré que dans la peinture des phénomènes de la nature, il aurait dit le dernier mot de notre art. Malheureusement, vous ne mangez pas, dis-je à Balzac. Vous avez raison. Et en 3 ou 4 bouchées de Gargantua, il avala en riant, en louant Cooper, en se promenant dans la boutique, 2 pâtés au macaroni, puis encore 2 autres, à la grande stupéfaction de la jeune Anglaise, toute surprise de voir manger si goulûment un homme qu'elle supposait sans doute devoir se nourrir de fleurs, d'air et de parfums. Son extase admirative n'en parut pas pourtant trop affectée. Puisque ce genre de roman vous plaît si fort, pourquoi, repris-je en offrant un verre d'eau à Balzac, on sait qu'il ne buvait pas de vin, pourquoi n'écririez-vous pas un ouvrage dont l'action se passerait au bord d'un lac, comme le dernier roman de Cooper? Et où diable voulez-vous que je le prenne, ce lac? Nous n'avons que des bassins et des cuvettes. Le lac d'Angien, n'est-ce pas? Vous connaissez beaucoup de voyageurs. Faites-les causer quand ils vont vous rendre visite au jardin. Je sais que la plupart ne sont que des cannes à sucre, très longs, très touffus et très filandreux, mais enfin, en les pressant, on en tire du sucre et du rhum. « Oh, mon cher ami, » me répondit Balzac en portant son verre d'eau à ses lèvres, « si vous saviez combien l'on ne sait rien, vous faut-il une preuve de cette terrible vérité? En voici une. » Et, engloutissant 2 autres petits pâtés au macaroni, il continua ainsi. Quand je conçus le projet d'écrire le Lys dans la vallée, j'eus, comme Cooper, la pensée de faire une part splendide au paysage dans mon livre. Pénétré de cette idée, je me plongeai dans le panthéisme naturel comme un païen. Je me fis arbre, horizon, source, étoile, fontaine, lumière, et comme la science est un bon appui en toutes choses, je voulus savoir les noms et l'importance d'une foule de plantes dont je comptais parsemer mes descriptions. Ma première préoccupation fut donc de connaître les noms de ces petites herbes que nous foulons dans la campagne, soit au bord des chemins, soit dans les prairies, soit tout simplement partout. Je m'adressai premièrement à mon jardinier. « Ah, monsieur, me dit-il, rien n'est plus facile que de savoir cela. »« Eh bien, dis-le-moi, puisque c'est si facile. » »« Ça, c'est de la luzerne. Ça, c'est du trèfle. Ça, c'est du sainfoin. Ça... » Je l'arrêtai. « mais non, je te demande comment tu appelles ces milliers de petites herbes-là que nous foulons, que j'arrache, tiens. »«
Eh bien, monsieur, c'est de l'herbe. »«
Mais le nom de ces myriades d'herbes longues, courtes, droites, courbées, douces, piquantes, rudes, veloutées, humides, sèches, vert foncé, vert pâle.
Eh bien, je vous le dis, c'est de l'herbe. »
Jamais je ne pus obtenir de lui autre chose, d'autre définition. C'est de l'herbe.
Le lendemain, un ami était venu me voir, précisément un de ces voyageurs dont vous me parliez tantôt. Je lui dis à peu près comme j'avais dit la veille au jardinier.
Vous qui êtes botaniste et qui avez beaucoup voyagé, connaissez-vous ces petites herbes qui courent partout sous nos pieds ?
Parbleu, me répondit-il. Eh bien, dites-moi les noms de celles-ci.
J'arrachai une poignée d'herbes que je lui mis dans la main.
C'est que, voyez-vous, me dit-il après quelques minutes d'examen, je ne possède guère à fond que la flore du Malabar. Si nous étions dans l'Inde, je vous dirais sans hésiter les noms de ces mille et mille petites plantes, mais ici vous êtes aussi ignorant que moi.
Je l'avoue, me dit mon ami le voyageur.
Et de deux, m'écriai-je.
De rage, je courus dès le lendemain au jardin des plantes, je m'adressai à un des plus savants professeurs de l'établissement.
Oh, monsieur Balzac, me dit ce célèbre naturaliste, que me demandez-vous là ?
Nous nous occupons beaucoup de la famille des Larxis, de celle non moins intéressante des Tamarix, mais notre vie n'y suffirait pas s'il fallait que nous descendissions à ces petites herbes de rien du tout. C'est là une affaire de marchand de salade.
Plaisanterie à part, ajouta-t-il, où placez-vous votre roman ?
En Touraine.
Eh bien, le premier paysan venu vous apprendra, en Touraine, ce qu'aucun professeur ne serait capable de vous dire ici. Et je partis pour la Touraine, où je trouvais des paysans aussi ignorants que mon voyageur, aussi ignorants que mon jardinier, mais pas plus ignorants que les professeurs du Jardin des Plantes. En sorte que, lorsque j'ai écrit le Lys dans la vallée, il m'a été impossible de décrire avec précision ces tapis de verdure que j'aurais eu tant de bonheur à rendre brin à brin, à la manière lumineuse et patiente des flamands. Et maintenant, vous voulez que je compte sur les voyageurs pour me fournir les couleurs nécessaires à la peinture d'un lac ? Résignons-nous et ne blâmons pas trop haut, surtout le spirituel abbé Vertot, parce qu'il a dit « mon siège est fait ». Il a bien mieux imaginé son siège que d'autres ne le lui auraient raconté. Seulement, on ne peut pas tout imaginer. « Combien vous dois-je ? » dit ensuite Balzac en s'adressant à la demoiselle au petit pâté.
« Rien, monsieur Balzac !» répondit-elle avec un accent de résolution et de fierté qui n'admettait pas de discussion.
Balzac me regarda. « Que faut-il faire ? » parut-il me demander. Mais au même instant, il trouvait lui-même une réponse à ce galant procédé. Il dit à la jeune Anglaise, en lui présentant le roman de Cooper, « Je n'aurais jamais tant regretté, mademoiselle, de ne pas en être l'auteur. » Et il laissa le roman dans les mains ébahies de sa naïve admiratrice.